Avant de vous retrouver dans une toute petite demi-heure pour la deuxième et dernière partie de la grande table en direct du Festival de Cannes, il est midi et demi sur France Culture et c'est l'heure du journal. Avec Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Donald Trump en Israël, deuxième étape de sa tournée après Riyad hier. Le président des États-Unis affiche sa conviction qu'il existe une rare opportunité d'apporter la paix dans la région. Correspondance d'Étienne Monin dans un instant. Commentaire de notre invité Frédéric Ancel. La France et l'Allemagne annoncent la création d'une zone de travail pour aller plus vite, plus loin dans l'intégration de la zone euro. Le ministre, les ministres, Le Maire et Schäuble se sont rencontrés ce matin à Berlin, compte rendu de Cyril Sauvageau. Le nouveau ministre de la Justice, François Bayrou, commence aujourd'hui des consultations sur le projet de loi de moralisation de la vie politique dont nous parlera Maïwenn Bordron. Et puis la campagne pour les législatives des 11 et 18 juin commence. Aujourd'hui même, le ministre de l'Intérieur va publier les listes complètes des candidats dans les 577 circonscriptions, présentations et perspectives dans cette édition avec Stéphane Robert. Enfin, le directeur de l'information de France Télévisions, Michel Field, présente sa démission. La rédaction s'apprêtait à voter une motion de défiance à son encontre. C'était pour la deuxième motion de défiance, dossier suivi par Manon Derderay. Voilà pour les titres et en voici le développement. Si les trois croyances chrétiennes, juives et musulmanes peuvent s'allier et coopérer, alors la paix est possible dans le monde, y compris entre Israéliens et Palestiniens. C'est ainsi que Donald Trump faisait part de son état d'esprit en partant hier d'Arabie Saoudite, première étape de sa tournée internationale, pour se rendre donc en Israël où il vient d'arriver. Et il doit également se rendre dans les territoires palestiniens tout à l'heure. Le président américain est donc à Jérusalem. Il va visiter tout à l'heure le Saint-Sépulcre. Puis il se rendra aussi au mur dit des Lamentations. Et il doit faire une première déclaration à la résidence du Premier ministre. Il affiche donc cette conviction qu'il existe une opportunité rare, dit-il, donc d'apporter la paix dans la région. Étienne Monin, bonjour.
Bonjour.
On s'interroge, les Israéliens aussi, parfois sur son plan. Qu'est-ce que c'est que cette opportunité pour relancer aujourd'hui le processus de paix?
Oui, c'est clairement une attente politique autour de ce déplacement. Clarifier sa vision, donner sa méthode. Donald Trump a affiché les objectifs. Il vient de le répéter donc à l'aéroport, vous le citiez, hein, cette opportunité rare d'apporter la paix dans cette région. Mais maintenant, qu'y a-t-il derrière les mots? Quelle est la mise en musique et quelles sont les paroles réelles? Il vient donc créer des conditions pour une reprise. L'ambiguïté tourne autour des...
Étienne Monin, il semble que la ligne se soit...
Il a tenu auparavant parce que il y a deux mois et demi, il a semblé se détacher de la solution à deux États. Il a semblé il y a deux mois et demi se détacher de la solution à deux États. Qu'en est-il aujourd'hui? Quel est l'impact pour lui de la colonisation dans un schéma de paix? Et puis, quid des promesses de campagne qu'il avait faites de déménager l'ambassade américaine à Jérusalem, ce qui impacterait directement le statut de Jérusalem, donc compliquerait un règlement final. Voilà, cette visite est donc un élément nouveau, important, dans une politique du statu quo que Barack Obama n'avait pas bousculé. On prête au président Trump la volonté de demander des gestes d'un côté et de l'autre, côté israélien, un geste économique et puis ce geste sur la colonisation qui d'ailleurs pour l'instant crée des tensions d'ores et déjà dans la coalition côté palestinien. Le président américain pourrait demander un geste en direction du soutien qui est apporté par l'autorité palestinienne aux familles de prisonniers et aux prisonniers, ce qui veut dire que d'un côté et de l'autre, ça n'est pas simple de tenir ses positions, mais voilà la ligne. On est là pour faire la paix, il y a une rare opportunité, reste à savoir ce qu'il y a derrière.
Voilà, encore beaucoup de questions, effectivement, Étienne Monin. Un tout petit mot peut-être du programme cet après-midi du président. Étienne Monin, je crois qu'Étienne Monin n'est plus...
Alors il y a une visite privée au Saint-Sépulcre et au mur des Lamentations. C'est un moment un peu important parce que c'est la première visite d'un président américain en exercice au mur des Lamentations. Et puis ensuite, en fin d'après-midi, un entretien avec le Premier ministre Benjamin Netanyahou qui sera un moment important. Et demain, le président américain se rend à Bethléem pour aller rencontrer le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas.
Merci beaucoup Étienne Monin, donc en direct de Jérusalem pour cette visite de Donald Trump. Salut l'invité du journal, Frédéric Ancel, bonjour.
Bonjour.
Donc, quelle est l'idée de Trump? Il parle d'opportunités, de rares opportunités. Est-ce qu'il y a des idées nouvelles?
Je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, il n'en a pas fait part. On a plutôt le sentiment d'un embrouillamini. Lorsque Netanyahou était venu le voir à Washington le 15 février, il avait affirmé dans son anglais légendaire, si vous aimez, vous, Israéliens et Palestiniens, la solution à un État, ben, je l'aimerais aussi. Si vous aimez la solution à deux États, je l'aimerais aussi. Bon, vous voyez, c'est en termes de ligne stratégique qu'on a déjà fait plus cohérent. Donc, on n'en sait rien. Mais surtout, je pense qu'il est un petit peu optimiste parce que pour qu'il y ait effectivement une opportunité, qu'elle soit rare ou pas, il faut au moins deux conditions, une locale, une américaine. La condition locale, elle est double, c'est que d'une part, à Jérusalem, le gouvernement ne soit pas trop nationaliste. Or, pour l'instant, la coalition, elle est plutôt nationaliste. Et d'autre part, il faut que les Palestiniens soient à tout le moins un peu unis. Et entre le Hamas et l'autorité palestinienne, c'est toujours pas le cas. Et puis la deuxième condition, alors pour le coup américaine, c'est qu'il y ait la volonté de faire réellement avancer les choses grâce à des carottes et à des bâtons. C'est-à-dire proposer aux uns et aux autres, notamment un fonds d'investissement économique international, et à commencer par un fonds américain qui les aiderait à se développer respectivement. Et le bâton, c'est de dire, écoutez, pour l'instant, on vous aide, et si vous continuez à ne pas discuter, eh bien, au contraire, on limite cette aide-là. Alors, pour l'instant, Trump n'a pas évoqué ni de carottes ni de bâtons, et d'ailleurs, le dernier président américain en date qui se soit comporté de cette manière-là, c'était même pas Obama, c'était Bush père en 1991. Donc, ça remonte à loin tout de même.
Frédéric Ancel, merci beaucoup. On vous retrouve à la fin de cette édition pour élargir cette perspective, revenir notamment sur les tensions entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, puisque Donald Trump en a parlé hier à Riyad. La France et l'Allemagne veulent donner une nouvelle impulsion à la zone euro pour accélérer l'intégration européenne. Le nouveau ministre des Finances, Bruno Le Maire, l'assure. Après une rencontre à Berlin avec son homologue allemand Wolfgang Schäuble, les ministres annoncent donc la création de ce groupe de travail pour aller, disent-ils, plus vite, plus loin dans l'intégration de la zone euro. Cyril Sauvageau, on écoute d'abord peut-être cette annonce de Bruno Le Maire en allemand.
Deutschland und Frankreich. Wir haben viel zu tun.
Quelques mots en allemand de Bruno Le Maire, des mots d'encouragement de la part de Wolfgang Schäuble. À Berlin ce matin, les deux ministres des Finances ont tenu, dès leur premier rendez-vous, à montrer leur détermination commune avec la création d'un groupe de travail sur l'avenir de la zone euro.
Ça fait des années que l'on parle de progrès dans l'intégration de la zone euro, mais les choses n'avancent pas assez vite et pas assez loin. Eh bien, nous sommes décidés désormais à faire avancer les choses plus vite, plus loin, de manière très concrète.
Concrètement, des propositions devront être faites au prochain Conseil des ministres franco-allemands début juillet. Parmi les chantiers prioritaires, la convergence fiscale, l'investissement, la coordination des politiques économiques, mais aussi l'avenir institutionnel de la zone euro. Un programme ambitieux, mais pour convaincre l'Allemagne d'avancer, la France devra donner des gages de bonne volonté. C'est aussi le message qu'est venu délivrer Bruno Le Maire.
Nous tiendrons nos engagements en matière de réduction des déficits. Et nous ne le faisons pas pour faire plaisir à l'Europe, à la Commission européenne et même à nos amis allemands. Nous le faisons parce que c'est bon pour la France.
Réponse plutôt bienveillante de Wolfgang Schäuble.
Deutschland vertraut Frankreich.
L'Allemagne fait confiance à la France.
Voilà la réponse du ministre allemand. Une initiative qui est sans doute bien dans l'air du temps maintenant, puisque la Poste lance aujourd'hui un dispositif qui s'appelle « Veiller sur mes parents ». L'objectif, c'est de limiter l'isolement des personnes âgées. Le principe, c'est que contre rémunération, eh bien, les facteurs passent régulièrement chez les personnes âgées. Ils peuvent aussi donner l'alerte en cas de problème. Ils peuvent envoyer aussi à leurs proches via des applications dédiées des messages. Et le prix de ce service facturé par la Poste donc varie entre 40 et 140 euros mensuels. Annabelle Grelier, je le disais, initiative emblématique de ce monde nouveau qui se met en place.
Oui, cela s'appelle la diversification des métiers, Antoine. La Poste a été créée avant l'ère numérique et elle doit aujourd'hui évoluer, estimée dans son dernier rapport la Cour des comptes. Son cœur de métier, le courrier, est en déclin. C'est pourquoi la direction ne cesse de lui trouver de nouvelles missions. La Poste entend faire de ses quelques 72 000 facteurs des hommes et des femmes à tout faire. Sur demande, il relève les compteurs d'électricité et de gaz, encadre l'examen du code de la route, installe des décodeurs TNT ou vend des téléphones portables. Dans le cadre du dispositif « Veiller sur mes parents », le facteur s'arrête sur sa tournée pour discuter avec une personne âgée, ce qu'il faisait autrefois gratuitement parce qu'il en avait le temps. Il le fait aujourd'hui moyennant finance comme un service à la personne. Le chiffre d'affaires de ces nouveaux services devrait atteindre tout de même 40 millions, estime toujours la Cour des comptes, ce qui donc lui donne félicitations. C'est toutes ces initiatives. Le mal-être au travail, les suicides qui se multiplient mais que l'on minimise, dénoncent les syndicats, n'y feront sans doute pas grand-chose. la trajectoire semble tracée. En 2015, le gouvernement a décidé de reconvertir les bureaux de poste à faible activité en maisons de services au public, regroupant les services de la CAF, de la Mutualité Sociale Agricole, des caisses de retraite, de l'assurance maladie et de Pôle emploi. Pour financer cette mutualisation, les collectivités puisent dans le Fonds National Postal de Péréquation Territoriale, un fonds doté de 174 millions d'euros par an. À la fin de l'année, le contrat de service public liant la Poste à l'État arrivera à échéance. Il va donc falloir redéfinir ses missions. Dans son rapport, la Cour des comptes recommandait à l'État de mener un débat public autour de l'avenir de la Poste. Un autre dossier brûlant donc à venir pour ce nouveau gouvernement qui devrait être révélateur de sa notion de service public.
Voilà, les facteurs pourraient sonner donc deux fois. Merci beaucoup Annabelle Grolier. C'était l'une des promesses de campagne du nouveau président de la République, la moralisation de la vie politique. Le nouveau ministre de la Justice, François Bayrou, commence aujourd'hui des consultations sur ce sujet. Il va recevoir Transparency International et Anticor. Ce sont deux ONG qui militent depuis longtemps, on le sait, en faveur d'une plus grande probité en politique. Il va voir tout à l'heure le député socialiste Pierre Dosière, lequel a déjà adressé d'ailleurs à François Bayrou son projet, son propre projet pour la moralisation de cette vie politique. Maïwenn Bordron, bonjour.
Bonjour.
Bon, on connaît finalement d'ores et déjà un peu les contours de cette future loi.
La première des quatre mesures phares qui fait, elle fait directement écho aux affaires qui ont secoué la campagne présidentielle, la fin des emplois familiaux au Parlement. Impossible de ne pas penser à Pénélope Fillon et aux soupçons d'emploi fictif qui la visent, ou encore aux filles adolescentes du député socialiste Bruno Leroux, embauché à l'Assemblée. Deuxième mesure, l'interdiction d'exercer des activités de conseil, parallèlement à un mandat de parlementaire. Troisième mesure, le non-cumul des mandats dans le temps. Un député ou un sénateur ne pourra pas enchaîner plus de trois mandats successifs. Enfin, autre disposition clé du projet de loi, la fiscalisation de l'ensemble des indemnités de parlement. En ligne de mire notamment l'indemnité représentative de frais de mandat. Il s'agit d'une enveloppe d'un montant mensuel de 5 840 euros qui sert par exemple à payer le loyer d'une permanence.
Voilà, donc le texte pourrait être effectivement établi avant les élections, mais quelle est sa suite politique? Comment ensuite sera-t-il adopté?
Emmanuel Macron va essayer de ne pas passer par la case révision de la Constitution. Il veut aller vite sur cette promesse de campagne et c'est possible à condition que le texte ne porte pas par exemple sur la diminution du nombre de parlementaires ou encore sur la responsabilité du chef de l'État. Autre condition pour que la loi soit adoptée, la précision du texte. Il y a 4 ans, par exemple, les sages avaient censuré une mesure visant l'interdiction d'activité de conseil pour les parlementaires. Ils avaient considéré que le texte de loi était trop flou. Certaines mesures annoncées par Emmanuel Macron n'ont elles même pas besoin de loi pour être appliquées, concernant par exemple la fin des emplois familiaux au Parlement. Un simple amendement au règlement de l'Assemblée nationale et du Sénat peut suffire. Enfin, de façon plus générale, cette loi ne pourra être votée qu'à condition qu'Emmanuel Macron dispose d'une majorité à l'Assemblée après les élections législatives des 11 et 18 juin. Et reste enfin à savoir si les parlementaires accepteront ensuite de voter des mesures qui les concernent directement.
Maïwenn Bordron, merci beaucoup. On en vient donc à cette campagne pour les législatives qui auront lieu, ces élections, le 7, premier tour le 11, deuxième tour le 18 juin. Le ministre de l'Intérieur va publier tout à l'heure les listes complètes des candidats dans les 577 circonscriptions et il y en a beaucoup. Question centrale, Emmanuel Macron aura-t-il une majorité pour gouverner ou va-t-il devoir composer avec d'autres forces politiques, que ce soit à droite ou à gauche? Sur France Inter, ce matin, le premier secrétaire du PS, Jean-Christophe Cambadélis, appelait les électeurs à envoyer le maximum de députés socialistes pour que, dit-il, les valeurs de justice sociale soient représentées et défendues à l'Assemblée nationale. Il accusait M. Macron et son gouvernement de vouloir réduire la voix de l'opposition ainsi que celle des organisations syndicales. M. Cambadélis estime par ailleurs qu'il n'est pas impossible que le Parti socialiste change de nom. À droite aussi, c'est l'heure du renouveau. Jean-François Copé, par exemple, député maire de Meaux, estimait ce matin que le Parti Les Républicains avait besoin d'être revu de fond en comble, du sol au plafond. On l'écoute et puis un extrait de l'interview de Jean-Christophe Cambadélis.
Je pense que le Parti LR, il a besoin d'être revu de fond en comble, du sol au plafond. Il faut tout recommencer.
Pour faire quoi?
Et de toute façon, au lendemain du 18 juin, quoi qu'il arrive, il faudra tout réorganiser. Pour faire quoi? Pour faire que les voix différentes soient mieux entendues. Pour faire qu'il n'y ait pas une seule ligne avec le doigt sur la couture du pantalon. Pour ne pas que celui qui est chef, s'il doit y en avoir un, vire tous ceux qui ne sont pas d'accord avec lui.
Une direction
nous
collégiale,
avons tellement
c'est ça que vous
souffert
avez proposé.
De ça avec François Fillon et avec Nicolas Sarkozy. Il faut changer. Il faut ouvrir. Il faut qu'il y ait des sensibilités. Il faut qu'il y ait des tendances différentes.
Je pense que le Parti Socialiste va se refonder, se reformuler, se restructurer, qu'il y aura beaucoup de travail, comprendre qu'il y a peut-être une reformulation du progressisme à inventer.
Est-ce que cette reformulation pourrait passer par un changement de nom du Parti Socialiste ?
Ce n'est pas impossible, on le décidera. Le Parti Socialiste ne peut plus vivre comme la SFIO, c'est-à-dire avec une verticalité. Aujourd'hui, il faut faire vivre plus fortement les mouvements associatifs. Il faut trouver une nouvelle formule d'agrégat politique.
Jean-Christophe Cambadélis était avec Patrick Cohen sur France Inter et Jean-François Copé était sur France 2 avec Caroline Roux. Bonjour Stéphane Robert.
Bonjour Antoine.
Les partis dits dorénavant traditionnels ont-ils une chance de tirer leur épingle du jeu ? Vont-ils se rénover, se réformer ? Vont-ils résister lors de ces élections au tourbillon de la recomposition ? C'est toute la question qui est posée.
Alors déjà pour ce qui concerne la gauche, ça va être très difficile parce que tous les candidats partent à la bataille en ordre dispersé. Il y a par endroit une union de la gauche comme dans le département de la Somme ou dans quelques circonscriptions des Yvelines, mais on est là dans ce qui relève de l'exception. Dans la plupart des cas, vous avez à la fois un candidat socialiste, un candidat communiste et un candidat France Insoumise. La raison en est que d'un côté, Jean-Luc Mélenchon poursuit son offensive solitaire dans une perspective de revanche de la présidentielle. Et de l'autre côté, le PS, comme le Parti communiste, persuadé que c'est d'ores et déjà perdu, essaie de sauver ce qui peut encore l'être. Et ce qui peut encore l'être, c'est le financement public accordé aux formations politiques. En fonction du nombre de voix obtenues, vous touchez 1,60€ par bulletin de vote. Du coup, PC comme PS présente un maximum de candidats dans un maximum de circonscriptions. Alors certes, ça va rapporter un peu d'argent, mais en nombre d'élus, ça sera catastrophique. Pour le Parti Socialiste notamment, il faut s'attendre, et là je reprends une expression de mon confrère de l'opinion Ludovic Vigogne, à une nuit de la Saint-Barthélemy politique. La droite, quant à elle, n'en est pas encore tout à fait là, puisqu'elle a réussi à maintenir tant bien que mal un semblant d'unité, malgré les débauchages effectués par Emmanuel Macron. Mais on voit bien qu'une véritable fracture est en train de s'opérer entre une droite modérée, européenne et humaniste, et une droite plus radicale et conservatrice. Une fracture qui se retrouve sur le terrain, chez les électeurs de droite, un peu déboussolés par ce qui est en train de se passer. Certains voteront pour le candidat LR ou UDI traditionnel, mais d'autres pensent qu'il faut répondre à la main tendue par Macron et lui donner une majorité. Cela va se départager soit dans un vote en faveur des candidats En Marche, soit dans une indulgente abstention. Et ce partage des voix au sein de l'électorat va nécessairement conduire à un écrémage du potentiel d'élus que peut espérer la droite. D'ailleurs, en interne chez LR, on avoue que si on arrive à faire élire 140 à 150 députés, ce sera déjà pas mal.
Si je comprends bien, donc, c'est la victoire d'En Marche qui paraît la plus probable aujourd'hui.
Ce n'est pas certain, évidemment, mais comme vous dites, c'est du domaine du probable, en tout cas du possible. Déjà parce qu'il y a l'effet de souffle donné par la victoire à la présidentielle, la dynamique, ça va jouer. Et puis du côté d'En Marche, il y a eu une assez savante analyse de la carte électorale dans les circonscriptions où le parti d'Emmanuel Macron n'a aucune chance. Par exemple, circonscription rurale où les députés LR sont implantés depuis longtemps. Ce sont de tout jeunes candidats sans expérience qui ont été investis car ils ont très peu de chances de s'imposer. En revanche, là où c'est indécis, En Marche a investi des candidats plus capés, soit qu'ils ont une certaine aura médiatique, soit qu'ils étaient auparavant encartés au Modem ou au Parti Socialiste. Par ailleurs, même si dans ces circonstances, En Marche ne décroche pas la majorité absolue, Macron pourra vraisemblablement compter sur un certain nombre de députés de droite et surtout centristes de l'UDI qui le rejoindront au lendemain des législatives. D'ailleurs, le fait que le président de l'UDI, Jean-Christophe Lagarde, a mis son veto à l'utilisation d'une affiche de campagne qui montre François Hollande dans un miroir comme étant le reflet d'Emmanuel Macron, nous dit bien qu'il anticipe déjà la recomposition.
Stéphane Robert, merci. Avant de retrouver notre invité Frédéric Ancel, un mot de cette information qu'on a connue en fin de matinée, la démission de Michel Field de son poste de directeur de l'information de France Télévisions. Démission qui intervient, Manon Berdevet, alors que la rédaction s'apprêtait à voter une nouvelle motion de censure contre Michel Field.
Par souci d'apaisement, j'ai demandé à la présidente de me relever de mes fonctions de directeur de l'information. C'est par ce message lapidaire rapporté par le quotidien Le Monde que Michel Field a annoncé à son équipe sa décision de quitter France Télévisions. Quelques minutes plus tôt, il présentait sa décision à Delphine Ernotte, la présidente du groupe. C'est un nouvel épisode qui agite France Télévisions déjà dans la tourmente depuis la semaine dernière, après l'annonce du départ du présentateur star du JT de 20h de France 2, David Pujadas. Une annonce vivement critiquée par la rédaction de France Télévisions. Deux motions de défiance devaient être votées demain contre Michel Field et Delphine Ernotte. Déjà visée par une motion de ce genre en avril 2016, Michel Field était au cœur de nombreuses polémiques, à la suite notamment de la publication d'une tribune dans le journal Libération, une tribune dans laquelle il critique le traitement de l'information à France Télévisions. Le départ du journaliste de 62 ans a donc sans doute pour but de ramener un peu peu de calme dans une rédaction sous tension. Une assemblée générale reste prévue demain et le nom du nouveau directeur de l'information pourrait être annoncé dès aujourd'hui.
Manon Derdevet, merci. 1h10, retour donc vers notre invité Frédéric Ancel. On va dire encore un mot de ce qui se passe en ce moment à Jérusalem, parce que c'est un moment clé. On a parlé d'opportunités rares. Enfin, le président américain, vous nous avez dit que c'était pas évident à discerner les contours de cette politique. Mais il semble quand même qu'il y ait une nouvelle approche américaine. Je vous propose d'entendre ce que vient de dire Donald Trump, justement, à son arrivée à l'aéroport.
We are not here to lecture.
Nous ne sommes pas ici pour faire la morale. Nous ne sommes pas ici pour dire à d'autres peuples comment vivre, qui ils sont et à quoi ils doivent croire. Nous sommes ici, au contraire, pour proposer un partenariat basé sur nos valeurs communes. Avec l'aide de Dieu, ce sommet marquera donc le début de la fin pour ceux qui font régner la terreur et qui propagent la violence.
Voilà, c'était Donald Trump hier en Arabie Saoudite, mais je voulais justement étendre cette question. La nouvelle approche américaine, plus globalement dans la région, est-ce qu'on peut mieux la définir, Frédéric Ancel ?
Je dirais qu'elle est effectivement extrêmement réaliste au sens théorique du terme. Je veux dire par là que Obama s'intéressait aux droits de l'homme. Il faut se souvenir de son grand discours adressé au monde musulman, le discours du Caire de 2009, où tout de même il considérait que les droits de l'homme et les droits des femmes dans le monde musulman étaient très importants. Obama faisait la tête tout de même à quelques chefs d'État et de gouvernement du monde musulman, dont d'ailleurs les Saoudiens, pour ces raisons-là aussi. Trump, manifestement, il s'en fiche. Donc là, on revient à quelque chose d'extrêmement pragmatique. Avec avec l'Arabie Saoudite et l'Iran, on a le jeu absolu de l'axe sunnite, de l'axe arabe sunnite face à l'axe chiite et je devrais dire russo-chiite. Donc là, on a une prise de position extrêmement forte qui était moins celle d'Obama, puisque Obama avait tout de même conclu un accord nucléaire, on s'en souvient, c'était le 14 juillet 2015 avec l'Iran.
Alors, cet axe ou ce conflit plutôt entre ces deux pôles sunnites et chiites, est-ce qu'il vous paraît encore structurant par rapport à tout ce qui peut se passer dans la région ?
Plus que jamais. Je pense que on peut aller jusqu'à dire qu'aujourd'hui, l'ensemble du monde musulman, le monde musulman, c'est environ 1,5 milliard de personnes, c'est 57 États à majorité musulmane, vit une véritable guerre civile. Une guerre civile non seulement entre chiites et sunnites, en tout cas c'est vrai au Moyen-Orient, avec cette guerre froide entre Iran et Arabie Saoudite et alliés respectifs, et puis un double clivage dans le cadre de cette guerre civile entre ceux qui prônent plutôt la notion de Watan, autrement dit de nation, donc les nationalistes en fait, par exemple Al-Sisi, l'Égyptien, et ceux qui prônent plutôt l'Umma, de ce concept à la fois spirituel, démographique, assez évanescent, consistant à dire, alors ça c'est les islamistes, en réalité il faut qu'il y ait une seule gigantesque entité musulmane. Donc si vous voulez, vous avez un double clivage qui aujourd'hui prévaut notamment en Syrie, et c'est pour ça que la guerre civile en Syrie est aussi extraordinairement violente, car vous avez d'un côté un chef d'État d'extraction chiite, donc alaouite, Assad, et en même temps nationaliste, et de l'autre côté, en face, plus exactement, une opposition majoritairement à la fois sunnite et islamiste.
Quand Daesh sera vaincu, comme on peut penser que ce sera le cas dans les mois qui viennent, est-ce que la situation va se rétablir possiblement en Syrie en tout cas ?
Vous savez, c'est très difficile à dire, parce que Daesh, ce n'est que le fer de lance, j'allais presque dire moderne, matérialisé, moderne au sens de l'État, de califal, d'une idéologie qu'est l'islamisme radical. Et cette idéologie-là, malheureusement, elle dépasse largement les rares territoires contrôlés par Daesh ces dernières années, qui se réduisent d'ailleurs comme une peau de chagrin. Et malheureusement, l'islamisme radical a essaimé dans le monde entier, du Pakistan à certaines de nos banlieues, en passant par l'Afrique subsaharienne, le Sahel bien évidemment, et d'autres régions du Moyen-Orient. Par conséquent, c'est ça qu'il faut aujourd'hui combattre. Et la grande coalition internationale qu'essaye de créer Trump, mais que Poutine prétend créé lui aussi de l'autre, de son côté, contre Daesh. C'est ça, c'est en réalité contre l'islamisme radical qui est un véritable fléau.
Frédéric Ancel, vous organisez des rencontres internationales géopolitiques, ça se passe à Trouville-sur-Mer, et ça sera ce week-end, donc samedi et dimanche, sur le thème les Occidentaux et le Moyen-Orient, avec cette date, ce créneau, si je puis dire, ce centenaire, 1917-2017. Les Occidentaux, pendant ce siècle, face au Moyen-Orient, qu'est-ce qui a fondamentalement changé ?
Eh ben pas grand-chose. C'est ça qui est terrible, c'est que depuis les politiques impériales de la France et de la Grande-Bretagne, avec notamment les fameux accords Sykes-Picot sur lesquels on reviendra pendant ces rencontres internationales géopolitiques de Trouville, jusqu'aux interventions françaises et américaines, que je ne qualifierais pas d'ailleurs d'impériales ou d'impérialistes, surtout pas pour les Françaises d'ailleurs, dans la région, au fond, vous avez toujours dans ce Moyen-Orient compliqué l'instrumentalisation du religieux au profit du politique. Vous avez toujours un clanisme et un tribalisme qui tente de casser l'État-nation, qui est considéré comme importé d'Occident et d'Europe en particulier, et détesté à ce titre-là. Et puis, vous avez un problème de frontières, des frontières qui, effectivement, ont été encouragées, sinon créées, par les Occidentaux, et qui, un peu partout, tentent à exploser. Et c'est ça qu'on essaiera de travailler dans ces rencontres qui sont placées sous le haut patronage du ministre Jean-Yves Le Drian.
Voilà, rencontre internationale géopolitique de Trouville-sur-Mer ce week-end, les Occidentaux et le Moyen-Orient. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Frédéric Ancel, d'avoir accepté notre invitation. Un temps nuageux sur le sud-ouest avec des orages nombreux. Ailleurs, un soleil dominant, des températures de 18 à 27 degrés. Édition réalisée avec Yacine Bouzard. Prochain journal, 18h avec Tara Schlegel.